RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Bonjour à tous. Et si l'école s'inspirait des scouts? Et si les vertus pédagogiques reconnues du scoutisme pouvaient aussi se diffuser en milieu scolaire? Ce matin, dans Je pense donc j'agis, nous parlons des liens entre l'école et un mouvement de jeunesse comme le scoutisme. Dans la seconde partie de l'émission, à 10h, en ce début de l'Avent, on se mettra en route vers Noël avec les scouts à l'occasion de l'arrivée de la lumière de Bethléem dans quelques jours, symbole de paix à diffuser. Nous attendons vos témoignages et toutes vos réactions. Est-ce que pour vous, la méthode scout peut-elle ou doit-elle inspirer l'école? Si vous avez été enseignant tout en ayant été scout, comment avez-vous mis la pédagogie scout au service de votre métier? Pour participer, vous envoyez vos réactions par mail à l'adresse direct@rcf.fr, vos messages dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis, et on vous attend à l'antenne au 04 72 38 20 23.
Jusqu'à 11h, Je pense donc j'agis sur RCF.
Et comme tous les mardis, c'est Stéphanie Gallet que l'on retrouve, rédactrice en chef culture et société. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Ça, je sais que vous le savez Melchior, il n'y a pas que l'école dans la vie, il n'y a pas que l'école pour instruire les plus jeunes. La sagesse africaine le dit depuis longtemps, il faut tout un village pour élever un enfant. Et aujourd'hui, on considère qu'il existe d'autres lieux que l'école pour former intellectuellement, socialement et humainement les enfants. On pense évidemment à la famille, avec les parents qui sont naturellement les premiers éducateurs. Mais au-delà de l'école et de la maison, il existe de nombreux lieux qui aident nos enfants à grandir et les accompagnent dans leur vie. C'est le cas entre autres des mouvements d'éducation populaire, des clubs sportifs, de la catéchèse, de l'aumônerie, des conservatoires et j'en passe. Autant de lieux où enfants et ados reçoivent une formation bien différente de l'école, mais non moins importante. Alors comment ces différentes structures peuvent-elles mieux collaborer pour mieux accompagner nos enfants? C'est la question du jour. Les scouts et les guides de France ont travaillé le sujet. Ils ont un certain nombre d'expériences et de projets en la matière. On en discute avec eux ce matin et bien sûr avec vous. Quand l'école se met à l'école du scoutisme, quand le scoutisme inspire l'école, c'est le sujet de notre émission et on attend vos questions et vos témoignages en la matière.
Et ce sont trois invités qui nous accompagnent, Stéphanie, jusqu'à 10h.
Oui, trois anciens scouts devenus enseignants. Philippe Bancon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'établissement du collège Saint-Vincent à Andailles. Vous êtes l'ancien délégué général des scouts et des guides de France. Merci d'être avec nous ce matin. Autre invité, et on verra que le Pays Basque est en force ce matin. Clément Taillez ou Taillez, comment est-ce qu'on dit?
Alors, on dit les deux, mais je dirais plutôt Taillez.
Alors, Clément Taillez, vous êtes vous aussi ancien adhérent des scouts et des guides de France, chef d'établissement du collège La Salle Saint-Bernard, et c'est à Bayonne. Et puis on termine par Marion Héral, bonjour. Bonjour. Marion Héral.
Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez?
Voilà, vous êtes enseignante en EPS, dans un collège REP dans les Hauts-de-Seine, et vous êtes aussi équipière de l'équipe nationale marine des scouts et des guides de France. Alors bonjour et merci à tous les trois de participer à cette émission. Je voudrais commencer en vous posant à tous la même question. Qu'est-ce que l'enseignant que vous êtes devenu, doit au scout et à la guide que vous avez été? Allez, je commence par vous, Clément Taillez.
Disons que pour moi c'est une question un peu de vocation. Quand j'ai commencé mes études, je m'étais lancé dans un parcours de communication d'entreprise, et puis en parallèle le week-end je parcourais les lieux de camp pour être chef scout, et très vite c'est devenu une vocation. Donc je me suis assez vite réorienté pour devenir enseignant, et avec cette volonté de d'éduquer, en tout cas avec ce rôle d'enseignant.
Philippe Bancon, vous, pourquoi? Qu'est-ce qui reste du scout en vous? Qu'est-ce que le prof doit au scout?
Qu'est-ce que le prof doit au scout? Clément.
Ah, je crois qu'il y a une coupure, Stéphanie, avec Philippe Bancon, qu'on va retrouver dans un instant.
Trois invités, donc on peut poser la question.
Connexion.
Allez-y, avec Philippe Bancon.
Oui. Voilà. C'est un peu comme Clément. Mon engagement en tant qu'enseignant et puis chez l'établissement doit pratiquement tout au scoutisme. Moi, j'avais fait des études techniques, donc très éloignées des questions relationnelles. Et mon engagement en tant que chef scout d'abord et ensuite pionnier à l'époque m'a vraiment fait me réorienter complètement et passer ma vie à être sur le champ éducatif. Voilà.
Marion Héral, je termine avec vous. Qu'est-ce que la prof de sport doit à la guide ou qu'elle a été?
Oui, vous m'entendez bien là, c'est bon?
C'est beaucoup mieux là, merci beaucoup.
Ok, super. Je pense qu'il y a une volonté commune d'un rôle d'éducatrice, pour le coup, de faire grandir les élèves et les jeunes. Et donc finalement, c'est des supports différents. L'idée derrière, ça reste de faire vivre des expériences, de les accompagner. Et pour le coup, je pense que mon expérience en tant que chef TEN m'a beaucoup servi dans ma relation pédagogique avec mes élèves aujourd'hui.
Voilà, merci à tous les trois. Les auditeurs s'en sont rendus compte. Hein, vous êtes tous avec nous par liaison numérique. Philippe Bancon, je voudrais qu'on commence peut-être par quelques définitions. Il y a du jargon dans cette histoire de partenariat, de collaboration entre l'école et les scouts. Il y a des termes qu'il nous faut apprendre. Quels sont les différents lieux où on considère que les enfants peuvent être formés? Alors, j'ai commencé à aborder le sujet dans mon introduction, mais je voudrais que vous précisiez un peu.
Oui, on parle de trois manières, je dirais, d'apprendre, en tout cas de lieux pour apprendre. On parle de l'éducation formelle, donc là, pour résumer, c'est l'école. C'est une institution nationale, c'est une structure organisée, c'est des objectifs éducatifs précis avec des reconnaissances d'acquis et des programmes. On parle de l'éducation un peu à l'inverse, l'éducation informelle, ça c'est plutôt la famille, les médias, c'est une éducation diffuse, c'est-à-dire qu'il y a des intentions de celui qui éduque, mais de l'apprenant, on n'a pas obligatoirement une intention précise, c'est un peu comme ça qu'on apprend à parler quand on est petit, on n'est pas conscient qu'on est en train d'apprendre à parler. Et entre les deux, on a l'éducation non formelle. L'éducation non formelle, elle est moins structurée que l'éducation formelle en termes de programme. Par contre, il y a des vrais objectifs éducatifs et il y a une conscience de l'apprenant, de l'intention d'avancer, de progresser, d'apprendre. Là, on est vraiment dans le champ de l'éducation populaire et du scoutisme en particulier, puisqu'on en parle aujourd'hui. Et c'est vrai que ces trois formes d'apprentissage alors l'un est très naturel, c'est l'éducation informelle. L'éducation formelle et l'éducation non formelle, c'est-à-dire l'école et l'éducation populaire, sont plus structurées, sont moins, je dirais, intuitives. Elles sont vraiment très complémentaires au sens où c'est un peu les différents espaces où les enfants aujourd'hui peuvent vivre. On arrive, ce que vous disiez en introduction, et j'y crois beaucoup, à une époque où on est un peu moins en silo et en chacun de son côté pour l'éducation des enfants. Il y a vraiment besoin, et ça se fait de plus en plus, d'un dialogue entre ces différents espaces pour que les enfants en profitent au maximum.
Clément Taillé, cette prise de conscience que l'école ne peut pas fonctionner en vase clos et qu'elle a besoin aussi des autres lieux pour faire grandir les enfants, ça date de quand ?
Disons que l'idée que l'école est une partie du système éducatif, en fait, la famille a un rôle à jouer, les éducateurs qui peuvent avoir un impact sur les enfants ont aussi leur rôle à jouer. Plus on a de dialogue, mieux c'est. On voit une partie des enfants quand on est à l'école. On voit pas tout. Donc l'important, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des méthodes différentes, de pouvoir avoir un impact sur les différentes intelligences des élèves qui sont face à nous. Il y a des élèves qui seront très intégrés, qui fonctionneront bien dans un système scolaire, d'autres pour lesquels ça sera un peu plus compliqué. La question, c'est comment est-ce qu'on met en valeur ces formes d'intelligence. Le fait de pouvoir partager avec les scouts notamment ou avec d'autres formes d'éducation, c'est intéressant parce que l'idée, c'est de pouvoir valoriser les compétences de tous nos élèves et plus on discute, plus on partage sur les enfants qui sont en face de nous, mieux c'est.
L'idée, c'est que plus il y a de parents, plus il y a d'adultes plutôt, c'est ça le mot précis, plus il y a d'adultes pour éveiller et pour accompagner les enfants, mieux c'est. Marion Aéral.
Moi, je pense qu'il y a une notion qui est centrale à ce niveau-là, c'est la notion de tiers-lieu éducatif. C'est Mérieux qui met ça en avant en expliquant qu'en fait, il y a différents responsables de l'éducation des enfants. Et c'est-à-dire que l'école va peut-être s'axer sur d'autres dimensions et les éducations informelles et non formelles sur d'autres dimensions. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même des ponts qui sont possibles. Et c'est vrai que connaître les enfants dans différents contextes, c'est un vrai point d'appui en fait en tant qu'éducateur.
Et aujourd'hui, au sein de l'éducation en France, c'est officiel que l'école travaille avec d'autres structures, d'autres organisations, Philippe Bancon ?
Oui, c'est officiel, même si l'éducation nationale a quand même du mal à...
C'est ça, c'est pas évident quand même.
Reconnaître, non, c'est pas évident, non. Pendant très longtemps, l'éducation nationale s'est suffi à elle-même. Aujourd'hui, on voit bien malgré tout que quand on est enseignant, quand on est chef d'établissement, que l'école est quand même en difficulté sur un certain nombre de points. En particulier, c'est ce qui nous intéresse ce matin, sur des domaines sur lesquels les mouvements d'éducation populaire sont plutôt, eux, en force. Tout ce qui est l'éducation et la formation, ce qu'on appelle les compétences transversales, la capacité à travailler en équipe, à prendre la responsabilité, à être en autonomie. L'école est malgré tout un peu en difficulté par rapport à ça. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'école est beaucoup plus en capacité et accepte beaucoup plus de s'ouvrir. Oui, il y a des dans l'éducation nationale publique, il y a des associations qui sont reconnues partenaires en tant que telles et qui ont été validées. Pour l'enseignement catholique, je dirais que c'est plus naturel de fait d'avoir des mouvements comme les Scouts et Guides de France qui lui sont proches, les autres mouvements de scoutisme catholique également d'ailleurs, et avec lesquels on travaille plus ou moins bien, parce que de fait l'énergie d'un établissement scolaire est prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on a toujours un peu de mal aussi à s'ouvrir, donc c'est pas toujours très facile.
On parle de complémentarité, j'aimerais qu'on précise de quelle complémentarité on parle. J'ai l'impression que pendant longtemps, c'était une complémentarité d'emploi du temps. À l'école la semaine, enfin et aux autres le mercredi après-midi, le soir, enfin le temps après l'école. Aujourd'hui, quand on parle de complémentarité, c'est une notion un peu plus riche, Clément Taillé.
Mais la complémentarité, elle se vit un peu au quotidien, parce que dans une démarche d'éducation un petit peu intégrale, je dirais, les projets des établissements scolaires ont cette volonté de d'aborder, bon, bien sûr, toutes les connaissances disciplinaires, c'est le cœur de notre métier, mais il y a tout ce qui va à côté, tout ce qui entoure, toute la dimension de vie scolaire, toute la dimension pastorale, notamment dans les établissements d'enseignement catholique, peut apporter une complémentarité. C'est bien sûr l'éducation à la spiritualité, l'éducation à la relation, le vivre ensemble, le lien avec la nature, tout ça fait partie aujourd'hui, je dirais, d'une offre éducative dans les établissements scolaires. On ne peut pas ne pas prendre en compte toutes ces dimensions-là.
Marion Héra, une réaction ?
Moi, j'enseigne dans un établissement public, donc du coup, cette notion de complémentarité, comme on disait, le partenariat est un petit peu moins évident avec les Scouts et Guides de France. Néanmoins, il n'empêche qu'en fait, dans notre enseignement, on peut mettre en place des choses qui se rapprochent de la méthode scout entre guillemets, mais pour le coup, moi,
tout n'a pas besoin d'être formalisé. Tout n'a pas besoin d'être formalisé.
Bah voilà, exactement. Moi, en EPS, quand j'enseigne les activités de pleine nature, je vais aller sur des dimensions liées à la nature. J'ai souvent recours au travail en équipe avec des équipes stables. On a une relation pédagogique aussi qui est plus une relation de côte à côte que de face à face. J'ai souvent recours à des imaginaires aussi pour engager mes élèves. Donc finalement, c'est pour ça des choses que je fais chez les scouts m'inspirent aussi dans mon métier en tant que prof d'EPS.
Philippe Bancon.
Moi, je crois que la question de la complémentarité est un peu différente de la question même du partenariat. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas de lien en tant que tel, un enfant qui va à l'école et qui fait du scoutisme, je crois que c'est très complémentaire par la proposition elle-même. Je m'explique. La chose que n'arrivera jamais à faire à l'école, parce que c'est pas son cadre, c'est la question de la place du volontariat dans le scoutisme, dans l'éducation populaire de manière générale, dans l'éducation non formelle. De manière générale, on n'est pas obligé, on n'est pas contraint d'y participer. Donc ça veut dire qu'il y a une adhésion volontaire qui est première, alors qu'à l'école, c'est tout l'inverse, une obligation. Ce qui veut dire que derrière, et les deux sont indispensables. Hein, pour le, là, je parle vraiment d'un apport qui, pour moi, me paraît très, très complémentaire. Pourquoi c'est indispensable? Parce que, comme le dit très bien Jean-Marie Petitclerc, une bonne éducation, c'est aider l'enfant à assimiler qu'il s'impose au monde et en même temps que le monde s'impose à lui, qu'il y a vraiment une tension entre les deux. À l'école, de fait, on apprend les règles de grammaire, les règles de mathématiques, on apprend les règles de vivre ensemble avec des gens qu'on n'a pas choisis. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du monde qui s'impose à soi. Bien sûr qu'il y a aussi des espaces de liberté et de choix, mais on dirait que la majorité de ce qui est vécu est plutôt du registre de l'apprentissage du monde qui s'impose à soi. Alors que dans le scoutisme et dans l'éducation non formelle de manière générale, c'est un peu l'inverse. On y est par choix, on apprend à gérer son autonomie, sa liberté, à faire justement des choix qui nous permettent de grandir. Voilà. Par exemple, une des complémentarités fortes qui est un peu non négociable et que l'école, même si je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, aujourd'hui, dans c'est un peu le thème de l'émission, il y a beaucoup de choses dont dans le scoutisme qui peut inspirer, beaucoup dans la méthode scout qui peut inspirer le fonctionnement d'une école. Mais il y a déjà une complémentarité, je dirais, intrinsèque par rapport à cette question du volontariat.
On se pose une question ce matin dans Je pense donc j'agis. La méthode scout peut-elle inspirer l'école? Vous venez apporter vos réactions, vos témoignages au 04 72 38 20 23. C'est Mélissa qui répond à tous vos appels. 04 72 38 20 23. Vous laissez également vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr et vos messages dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis. On va se retrouver dans quelques minutes après une très belle reprise de Mathieu Chélid. Les copains d'abord, signé Georges Brassens, bien sûr.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. Qu'on se le dise au fond des ports, dis au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards. Il s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates n'acmergitures, c'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, se tapait fort les copains d'abord.
Les copains d'abord, chanté par Mathieu Chédid à l'occasion de la sortie du film Le Trésor du Petit Nicolas sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Stéphanie Gallet.
Avec vos appels au 04 72 38 20 23, venez nous parler de la méthode Scout. En quoi peut-elle inspirer l'école? On attend tous vos témoignages également de professeurs, anciens scouts, bien sûr, pour savoir si, voilà, si vous avez été professeur, est-ce que vous avez mis cette pédagogie scout au service de votre métier? Je répète ce numéro 04 72 38 20 23. Stéphanie, on est en compagnie toujours de Philippe Boncon, Clément Taillé et Marion Héral, trois anciens scouts également.
Ouais. Dans quelques minutes, on leur demandera de nous raconter des exemples concrets, mais peut-être, pour ceux qui l'ignorent, je voudrais qu'on rappelle un peu qu'est-ce que c'est que la méthode scout et qu'est-ce qu'elle a à proposer à l'école. Je me tourne vers vous, Marion Héral.
Alors, en fait, la méthode scout se base sur différents piliers. Il y a des grands axes qui guident les choix pédagogiques. L'engagement dans la communauté, donc ça c'est toutes les dimensions liées à la citoyenneté, au vivre ensemble, à la responsabilité, la nature, donc la vie dans la nature, le campisme et ce que ça implique, le cadre symbolique qui va être lié à tout ce qui est l'uniforme, les dimensions symboliques derrière ce qui caractérise les scouts un peu dans l'imaginaire. Le soutien de l'adulte en termes de relations éducatives, le système des équipes, parce qu'en fait dans chaque tranche d'âge, les enfants fonctionnent en équipe. L'idée de progression personnelle aussi, puisque dans la pédagogie des scouts et guides de France, en fait, ils choisissent des dimensions sur lesquelles ils veulent progresser et monter en compétences. L'apprentissage par l'action et enfin la promesse et la loi. Qui correspondent en fait aux dimensions plus spirituelles du scoutisme.
Clément Taillé, comment est-ce que vous compléteriez ce que vient de nous présenter Marion Héral sur la méthode scout?
La méthode scout, c'est ces 8 points qui sont assez fondamentaux dans la compréhension du scoutisme. Ils sont assez évidents à mettre en œuvre quand on est scout de manière générale. À l'école, il faut parfois piocher dans certains de ces points-là. Ils sont pas tous forcément évidents à mettre en œuvre.
Lesquels sont les plus intéressants pour vous?
Selon moi, il y a bien sûr la question de la progression personnelle. On a un enjeu très très important là, parce que bon, aujourd'hui il y a les savoirs disciplinaires qu'on aborde en classe, ça c'est assez évident, et puis il y a tout ce qu'on appelle les compétences comportementales ou soft skills. On en parle beaucoup aujourd'hui dans un parcours scolaire, c'est important, je pense, de pouvoir les aborder. Alors
c'est les compétences.
Qu'est-ce qu'on appelle les compétences comportementales?
C'est ça. C'est un savoir-être, la résolution de problèmes, la confiance, l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'esprit d'initiative.
Les scouts sont plus doués que l'école pour ça?
Disons qu'il y a chez les scouts et guides de France, un certain savoir-faire dans la transmission de ces compétences-là. Vous savez, pendant longtemps ou depuis longtemps plutôt, c'est remarqué dans un CV quand on a été scout. De manière implicite, je pense que on reconnaît aux scouts la capacité à transmettre ces compétences-là. Et dans le cadre de l'école, aujourd'hui, c'est de plus en plus important. L'éducation nationale parle de plus en plus de parcours éducatifs. Ces parcours éducatifs, ils viennent compléter les savoirs disciplinaires. Alors il y a le parcours d'éducation à la citoyenneté, il y a le parcours avenir, le parcours santé. Ça fait penser pas mal au label et à la progression personnelle de chez les scouts.
Marion Héral, vous vouliez réagir?
Oui, si je peux me permettre sur ces dimensions-là, dans nos textes en EPS, en fait, nous, on a la mission, la finalité de former un citoyen lucide, cultivé et autonome, physiquement et socialement éduqué dans le respect du vivre ensemble.
Waouh, tout ça, donc, c'est pour les profs de sport, c'est ça?
Alors, deux PS, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, effectivement. Donc, en fait, ça, c'est notre finalité. Et pour ça, on doit atteindre des compétences motrices, mais aussi méthodologiques et sociales.
Mon Dieu.
Donc, pour le coup, nous, en EPS, et c'est le cas dans notre formation et c'est le cas dans notre concours, on est vraiment amené à développer les interactions entre les élèves, à les faire coopérer, à leur faire assumer certains rôles sociaux. Donc, ça fait vraiment partie de notre enseignement. Donc, après, on le met en œuvre comme on peut. Mais en tout cas, sur l'idée de progression personnelle, il y a aussi quand même des évolutions pédagogiques. Je pense notamment à l'évaluation par compétences qui est censée être progressive et permettre à l'élève de s'auto-évaluer et de se situer au fur et à mesure dans les apprentissages. Je pense que quand même à l'école, il y a des évolutions pédagogiques qui vont dans le sens d'un accompagnement de l'enfant dans sa construction de soi. Donc après voilà, c'est plus ou moins facilement mis en œuvre parce qu'on a des élèves qui sont pas forcément contents d'être là et pour qui rentrer dans le métier d'élève est compliqué. Mais néanmoins, je pense que ça va quand même dans le bon sens.
On prend le temps de vous écouter au 04 72 38 20 23. Bonjour Colette.
Oui, bonjour. Moi, je tenais pas forcément à intervenir directement, mais je voulais vous dire que en tant qu'ancien professeur, ancienne guide, chef TED et tout ce que vous voulez depuis les Jeannettes jusqu'à d'autres responsabilités, j'ai toujours dans mon enseignement utilisé la méthode Scout. Moi, je ne vais pas prendre les grands mots de compétences, etc., mais pour faire confiance aux élèves, pour s'auto-évaluer, pour faire en sorte que les plus habiles, j'allais dire, et développés au point de vue intellectuel, prennent en charge ceux qui avaient plus de difficultés, ce qui était assez nouveau à l'époque où je l'ai mis en place, mais il n'y avait pas que moi. Il y avait le Père Fort et il y avait d'autres pédagogies qui faisaient ça. Et je voulais vous dire aussi que j'ai des amis qui me disent encore maintenant, en tant qu'ancien proviseur de grand lycée, moi j'administrais mon lycée comme un camp scout. D'ailleurs, les étudiants ne s'y trompaient pas, puisqu'ils avaient badigeonné un transformateur « Vive Baden-Powell ». Alors, si vous voulez, je crois que c'est toute une pédagogie de la confiance, de la découverte. J'utiliserai, moi, le mot de débrouillardise, quoi. Quand les jeunes ont à prendre des responsabilités, ils les prennent, mais il faut encore qu'on leur donne la possibilité de les prendre.
Merci Colette pour votre appel ce matin depuis Lyon dans Je pense donc j'agis. Philippe Boncon, c'est intéressant ce témoignage de terrain, d'expérience avec ce qu'elle disait, une pédagogie de confiance, de découverte, de débrouillardise. Ça vous parle ça, Philippe Boncon?
Oui, ça me parle bien sûr. C'est de fait assez naturellement une posture éducative, une relation éducative qu'on développe dans le scoutisme et qu'on peut mettre en œuvre assez naturellement quand on est enseignant ou quand on travaille dans l'éducation nationale. Après, l'inspiration, je dirais, si on veut aller plus loin, il faut qu'elle soit un peu plus structurelle. De fait, moi je rejoins Marion, l'éducation nationale a beaucoup avancé sur la question de ses objectifs qui sont aujourd'hui pas uniquement sur les savoirs académiques. Il y a énormément dans le socle commun des compétences, je dirais la finalité, l'objectif final de l'éducation obligatoire en France, des domaines qui sont vraiment autour de la personne, de la citoyenneté, de la prise de responsabilité. Mais c'est vrai que structurellement, c'est plus difficile. Par exemple, on est amené à vouloir développer la responsabilité des enfants, mais en fait, à part les délégués de classe et les éco-délégués, il n'y a pas beaucoup de propositions en tant que telles qui vont plus loin, voilà. Donc ça veut dire que il faut être un peu créatif quand on veut structurellement faire aller plus loin que uniquement ce qu'on peut faire, je dirais, dans la classe. Au niveau du collège, par exemple, dans notre collège, on propose aujourd'hui une douzaine de responsabilités sur le mode scout, aux collégiens. Ils peuvent être journalistes, ils peuvent être responsables techniques, ils peuvent être jardiniers. Voilà, il y a une douzaine de responsabilités. Et c'est vrai que là, c'est vraiment, pour moi, on est vraiment sur la complémentarité parce que c'est ce que disait Marion aussi. L'évaluation par compétences aujourd'hui dans l'éducation nationale a beaucoup avancé, c'est-à-dire qu'on est capable presque d'être meilleur que le scoutisme dans la capacité à donner les différentes étapes de progression d'un enfant dans ses compétences qui sont difficiles à nommer, à acquérir, puisque c'est travailler en équipe, c'est être autonome, c'est voilà des choses qui sont pas très simples, voilà. Et je pense que là vraiment il y a une complémentarité intéressante à partir du moment où on considère l'établissement scolaire, ce que fait le scoutisme dans sa vie ordinaire, comme un espace de vie où on peut profiter de toutes les occasions pour donner des responsabilités, pour éduquer à la responsabilité, à l'autonomie, mais pas uniquement à la classe. Voilà, le temps de la pause méridienne, les récréations, toute la vie de l'établissement.
Et on continue de parler de cette complémentarité jusqu'à 10h sur RCF dans Je pense, donc j'agis. Vous faites comme Colette, vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour apporter vos réactions et vos témoignages. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Stéphanie Gallet.
Avec une question qui nous accompagne ce matin, la méthode Scout peut-elle inspirer l'école? On attend vos témoignages par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Stéphanie, on continue avec nos trois invités, Philippe Bancon, Clément Taillé et Marion Héral.
Stéphanie. Oui, voilà, oui. Avec mon micro.
Oui, c'est mieux.
Oui, je voudrais qu'on commence à parler très concrètement de ce qui se fait. Philippe Bancon vient un peu d'évoquer des orientations possibles dans un établissement scolaire. Alors, je me tourne vers vous, Clément Taillé. Je rappelle que vous êtes le chef d'établissement du collège La Salle Saint-Barnard à Bayonne. Et alors, c'est un collège qui essaye de faire sa transition écologique en s'appuyant sur des outils pédagogiques scouts, c'est bien ça?
On peut parler de transition écologique, on peut parler de conversion écologique. C'est vrai que le terme est plutôt celui-là chez les scouts et guides de France. De notre côté, on s'est lancé au niveau du collège La Salle Saint-Bernard sur une démarche de conversion écologique, alors qui passe par un certain nombre de choses, et notamment l'appui sur un outil qui a été créé par le mouvement des scouts et guides de France, qui est le kit de conversion écologique. Alors c'est un outil assez formidable qui a été réalisé assez récemment et qui permet en fait de d'aborder sur toutes les dimensions, alors du scoutisme bien sûr, mais qui est tout à fait adaptable dans un établissement scolaire, essayer d'avoir un impact écologique sur toutes les dimensions de ce qui peut se vivre dans un établissement scolaire. Alors il y a bien sûr la question du transport, la question du matériel, la question de la gestion des énergies ou des fluides, qui sont les plus évidents, mais on met pas de côté la question du vivre ensemble, la question de la relation. On n'élude pas non plus la question du rapport au numérique, la question du lien avec la nature. Donc c'est un outil qui est très très complet et qui va nous permettre d'avoir un impact sur l'ensemble des aspects et de la vie quotidienne de l'établissement.
Alors comment ça se passe concrètement pour votre établissement? Vous êtes en train de lancer cette démarche, donc là vous en êtes à une étape de concertation avec les enseignants?
Oui, alors il y a déjà des choses qui sont mises en place, notamment avec notre prestataire de restauration. On essaye de jouer sur la qualité de l'alimentation. Alors on a fait le choix d'un prestataire de restauration qui nous fournit une partie de produits issus de l'agriculture biologique ou issus de la production locale. On essaye de limiter fortement le poids des déchets à la cantine. Donc il y a un certain nombre d'actions comme ça qui permettent d'agir au quotidien dans notre cantine scolaire. Et puis après, c'est mettre en place des points de méthode. Alors c'est vrai que pour le moment, on en est à un lancement de la démarche avec les équipes. C'est notamment prendre appui sur des méthodes scouts. Alors c'est vrai que ça change un petit peu les manières de travailler. On a organisé une grande journée il y a quelques jours où on a incité les équipes pédagogiques, les équipes éducatives, les équipes administratives à travailler tous ensemble, notamment sur des ateliers d'intelligence collective, des ateliers participatifs qu'on retrouve assez souvent dans le fonctionnement des scouts. Et puis aussi à travers des jeux, parce que chez les scouts, il y a toujours la question du jeu qui est importante. Et le jeu peut être aussi une ressource pédagogique puissante dans nos enseignements. Voilà, donc c'est mettre en place une méthode et puis transformer un petit peu notre manière de fonctionner et ouvrir sur une méthode scout dans notre manière de travailler dans un collège.
J'imagine que la prochaine étape, ça sera d'associer les élèves.
Oui, bien sûr, les élèves vont avoir un rôle essentiel à jouer et il est important qu'ils soient au cœur de la démarche parce que c'est bien eux la raison d'être de notre investissement dans un collège comme chez les scouts. Donc ils seront bien sûr impliqués dans ces démarches-là pour faire vivre cette conversion écologique.
L'objectif, c'est pas de faire de tous vos élèves des petits scouts. C'est quoi exactement l'objectif avec tout ça?
L'objectif, c'est de dire qu'on compte sur eux. C'est qu'ils prennent leur place, qu'ils se sentent pas exclus de cette démarche. On n'est pas dans une démarche descendante. On est vraiment dans une co-construction avec les différents acteurs d'un établissement scolaire. Donc on va retrouver bien sûr les professeurs, les éducateurs, mais les parents sont inclus aussi dans la démarche, les élèves le sont, les secrétaires, les hommes d'entretien, c'est vraiment une co-construction de cette conversion écologique et chacun a son rôle à y jouer. Et donc les élèves auront leur rôle à y jouer bien entendu.
Philippe Bancon, une réaction à ce projet, il est vraiment exemplaire ?
Mais c'est de fait des questions qui traversent tous les établissements et de fait avec quand on a une culture dans le scoutisme, comme le disait Clément, il y a des méthodes de travail qu'on essaye de mettre en œuvre dans le pilotage des établissements. Je me retrouve tout à fait dans ce que Clément dit et puis dans les objectifs de co-construction, de participation des élèves aux décisions au quotidien. Là aussi, on est sur des alors. Il faut être humble, hein. Il n'y a pas que dans le scoutisme que ça se fait, dans l'éducation nationale ça s'installe maintenant de manière assez forte un peu partout, mais de fait on a aussi une particularité et des compétences à apporter qui sont me semble-t-il assez riches. On a sur d'autres points, hein, si je peux me permettre, voilà, il y a d'autres domaines sur lesquels moi un domaine qui me saute aux yeux, c'est l'éducation, la question de l'éducation par le réel, dans le réel, que le scoutisme propose par l'action, et que l'école a du mal à faire puisqu'on est plutôt un peu hors sol au quotidien. Et là, par exemple, on a beaucoup d'établissements, surtout en primaire et en maternelle, qui essayent de faire l'école dehors. Je pense qu'on a un vrai travail, et nous, on a essayé de l'entamer ici dans le collège à Andaille, collège Saint-Vincent, en mettant en place tout un travail autour du vélo. Puisque les élèves de 5e sont formés au vélo école, on a acheté une flotte de 20 vélos pour les élèves qui n'en ont pas, et pour permettre que le maximum de sorties scolaires sur Andaille puisse se faire facilement et se faire en vélo à partir de la 5e. Il y a des élèves qui sont mécaniciens pilotes en 4e et en 3e pour entretenir la flotte de vélo, pour accompagner la classe et qu'il puisse y avoir un minimum d'adultes qui va avec la classe, parce qu'il y a des élèves qui seront formés à piloter l'ensemble du groupe. Voilà. Donc là, c'est pareil, on va chercher dans le scoutisme une inspiration par rapport à la question de faire classe dehors, de donner des responsabilités aux enfants, et pour enrichir le fonctionnement habituel de l'établissement scolaire qui est plutôt, je dirais, entre quatre murs et à faire des travaux qui sont académiques, qui sont indispensables bien sûr, mais qui parfois manquent de sens pour les élèves. Mais, c'est la question du sens souvent qui est posée pour les élèves, pour certains élèves, ceux qui sont souvent en difficulté et qui peuvent en trouver justement quand on va en extérieur, qu'on va rencontrer des personnes, qu'on va en situation réelle et pas uniquement dans le cadre de l'établissement.
Simone nous appelle de Fleury-les-Aubrais au 04 72 38 20 23. Bonjour Simone.
Bonjour monsieur. Vous me pardonnerez de mal entendre, je suis une très vieille dame. J'ai bientôt 90 ans. J'étais enseignante et ancienne éclaireuse. Et ce que j'ai retenu de mes années d'éclaireuse, c'est qu'elles avaient développé en nous nos qualités de cœur et de service. Et quand j'étais enseignante, ça m'a beaucoup servi dans mes interventions auprès des élèves qui quelquefois avaient recours à moi pour leurs problèmes, leurs dissensions. Et je les aidais à essayer de regarder en eux, et en l'autre évidemment, le meilleur d'eux-mêmes, et d'agir en conséquence. Et je trouve que c'est très important pour vivre en commun. C'est une des grosses difficultés dans nos classes actuelles. Et ça pourrait, en effet, je crois, changer un peu les choses si les enseignants, les anciens éclaireurs et éclaireuses, s'efforçaient de développer ces qualités de cœur et de service.
Bon, merci beaucoup Simone pour votre témoignage dans Je pense donc j'agis. Philippe Boncon, je répète un petit peu ce que disait Simone, nos qualités de vivre ensemble, voilà, qu'elle essayait de développer aussi avec les élèves. Et puis elle leur apprenait à rendre service. Ce sont des valeurs qui sont toujours présentes, bien sûr, dans le scoutisme.
Mais qui sont très présentes.
Oui.
Une des grandes forces de la proposition scout, c'est que la personne et la communauté ne sont jamais dissociées. Même les propositions pédagogiques qui sont les plus personnalisées, par exemple la promesse, se font avec l'unité. C'est-à-dire quand on fait sa promesse, qu'on s'engage sur la loi scout, on le fait devant tous ses camarades, tous les enfants et les adolescents de l'unité. Donc dans le scoutisme, les deux sont toujours vraiment fortement associés. Et ça, pour le coup, c'est un travail qui est nécessaire de faire encore dans l'éducation nationale, où on passe souvent de la classe globale et de du groupe à l'individu, sans qu'il y ait obligatoirement d'articulation forte entre les deux. Donc la question du service, la question de la prise de responsabilité, la question de la prise de décision ensemble sont vraiment des choses qui sont nécessaires d'installer dans l'établissement scolaire, justement pour pouvoir développer l'intelligence relationnelle et l'autonomie des enfants comme une interdépendance et pas comme une indépendance, mais vraiment une interdépendance, et que les enfants le ressentent comme ça et le vivent comme ça, comme une expérience de vie, et que leur passage dans le système scolaire puisse être aussi une véritable expérience relationnelle avec les autres et pas uniquement un espace de d'apprentissage.
Je suis très touchée. Ah oui. Melchior, je peux dire un petit mot? Je suis très touchée par l'appel de Simone, parce que Simone nous dit qu'elle est une très vieille dame, et elle nous dit en même temps combien cette expérience du scoutisme l'a marquée et l'habite encore aujourd'hui.
Voilà, comme quoi c'est marquant. Vous continuez de nous joindre, bien sûr, au 04 72 38 20 23. On va écouter une chanson de Jérémy Frérot tout de suite sur RCF.
J'étais l'enfant qui jouait dans les arbres. J'avais le temps, les cheveux en bataille. Il y avait le vent, il y avait le sable. Tout simplement la vie normale. Il y a les enfants de petits monstres. Et c'est marrant comme le temps passe vite. Il y a des gens assis à ma table. C'est maintenant la vie normale. Tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement. Même si je me couche tard, je me lève tôt, à moitié dans le train, mets les pieds dans le bassin, les nuits à l'hôtel, les soirées des copains. Tu sais que tu me manques et t'es là quand je vacille. T'es mon moteur, mon bébé, ma famille. À moitié dans le train, mets mes mains dans les tiennes. T'es mon tuteur, ma denrée, ma sirène. Et tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, à la vie qu'on mène.
Il y aura des cœurs, du courage, des cris des amis de passage. Il y aura des cœurs, du courage, tout simplement, viens voir la vie en vrai. Tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement.
La vie qu'on mène, c'était une chanson de Jérémy Frérot sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Stéphanie Gallet.
Et nous parlons de la méthode de Scout ce matin dans Je pense donc j'agis avec nos trois invités, Philippe Bancon, Clément Taillé et Marion Héral. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Stéphanie, on continue.
Ouais, relever des défis tout simplement, c'était parole de la chanson, c'est aussi le quotidien des scouts. Marion Héral, vous en avez relevé un sacrément impressionnant. Vous avez fait votre thèse sur le scoutisme et la Seine-Saint-Denis, comment le scoutisme peut accompagner les jeunes des quartiers. Aujourd'hui, vous êtes professeur d'EPS en collège REP, et là aussi, vous essayez d'appliquer la méthode scout pour les jeunes que vous accompagnez. Alors pourquoi est-ce que cette méthode pour ces jeunes-là est particulièrement intéressante ? Puis racontez-nous le projet très ambitieux que vous avez mené.
Ouais, bah je vais vous présenter du coup un petit peu les origines du projet et en quoi il consiste. Chez les scouts marins, en fait, il y a un diplôme qui s'appelle le patron d'embarcation, qui permet d'être chef de bord pour les jeunes à partir de 16 ans. Et en fait, les contenus, ça correspond à peu près au permis hauturier. Donc, c'est beaucoup de navigation sur carte, calcul de marée. J'ai eu l'occasion de le passer l'année dernière, et justement, par rapport à ce qu'on disait, je me suis dit, c'est vraiment des apprentissages concrets, explicites, et qui pourraient être porteurs de sens pour mes élèves, parce que du coup, je suis en milieu plutôt défavorisé, difficile, mais c'est surtout des enfants en fait en difficulté qui ont besoin de trouver du sens dans leurs apprentissages. Donc du coup, j'ai démarché en fait des collègues volontaires pour s'impliquer dans un projet interdisciplinaire au travers de la navigation. Donc j'ai la chance d'avoir de nombreux collègues qui sont ouverts à de nouveaux formats pédagogiques pour favoriser les apprentissages des élèves. Et donc du coup, en fait, le projet, ça va consister à aborder un certain nombre d'éléments du programme avec comme support la navigation sur carte. L'idée, c'est de, par exemple, en mathématiques, d'être sur la relation de Chasles, les vecteurs, l'algèbre avec les calculs de marée et la construction d'une route en fait sur la carte. En physique chimie, aborder ce qui est lié au courant, aux forces, au vent, aux marées avec la gravité. En géographie, la cartographie marine, du coup, au niveau des légendes. En SVT, les dimensions liées plus à l'écologie, à la météorologie et à la faune et à la flore marine. En anglais, la communication radio à la VHF avec l'alphabet international et les messages de détresse. Et du coup, en EPS, on va centrer sur le savoir nager, le sauvetage et quelques manœuvres de matelotage. Et l'idée, en fait, c'est de concrétiser ça sur l'eau pour mettre en œuvre leurs apprentissages et que ce soit vraiment porteur de sens. Donc, c'est Edgar Morin qui avait théorisé ça, mais l'idée, c'est de décloisonner les matières pour qu'on ait un fil rouge porteur de sens et pour favoriser les apprentissages. Et donc, dans ce cadre-là, on a fait le choix de faire un partenariat avec les Scouts et Guides de France, qui a été guidé par trois raisons. L'idée de concilier la navigation avec un temps de vie collective, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que l'éducation nationale a parfois les mêmes ambitions que les scouts, mais que finalement, le carcan dans lequel on est rend parfois un peu plus difficile la mise en œuvre. Donc, là, en fait, je tenais à ce qu'il y ait un mini-séjour, en fait, avec du camping, de la vie dans la nature. Ça répond aussi à une question d'ouverture culturelle. Et parce que dans le cadre de mon mémoire aussi sur les enjeux éducatifs du scoutisme dans le 93, j'avais mis en avant que la nature, en fait, était vraiment une des conditions de cette parenthèse du scoutisme. Aussi pour une question de soutien logistique parce qu'on a des contraintes en termes de budget et le partenariat avec les scouts nous permettait de nous en sortir aussi pour naviguer un peu à moindre coût et pour les questions de prêt de matériel notamment de campisme. Et donc du coup via l'équipe nationale marine je suis rentrée en contact avec un groupe marin de Sens. Donc j'ai eu la chance de tomber sur un chef qui était à nouveau super ouvert et motivé pour le projet. Il a été mon interlocuteur avec ses co-cheftaines, avec son équipe de groupe, avec l'école de voile. Et donc l'idée, en fait, c'est que ce soit enrichissant pour ces jeunes et pour mes élèves. Donc on a choisi de caler ce mini-séjour en fait sur un week-end où eux, ils sont aussi en réunion pour qu'il puisse y avoir une rencontre. Et donc on est vraiment dans une logique de co-construction en fait du projet pour que ça fasse grandir tous les jeunes et les enfants.
Et alors, quelle réception ? Alors on a compris que vous aviez été suivi par les les enseignants. C'est déjà formidable. Mais comment est-ce que les enfants, les élèves ont accueilli, puis leurs parents ont accueilli ce projet?
Et bah effectivement, ça fait partie des points de vigilance. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment un devoir de transparence et de communication pour expliquer en quoi ce partenariat va être très porteur. Donc nous, on n'est pas du tout sur la dimension spirituelle de la méthode Scout. Après, ils sont dans l'inconnu. Donc ça peut être aussi un peu porteur de questionnement, parce que la plupart n'ont jamais campé. Ça veut dire qu'on va devoir aussi trouver les équipements individuels, parce que tout ce qui est devis, tapis de sol, ils n'en sont pas dotés. Et ça implique aussi, nous, en amont, de nous adapter, en fait, pour rendre certains éléments de la méthode Scout accessibles, parce qu'en fait, on a parfois tendance à oublier que c'est pas forcément une évidence, et que le décalage, en fait, entre ce qu'on leur propose et leur culture, leur socialisation, risque d'être trop important. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment cette démarche en amont avec les chefs du groupe de Sens, d'anticiper la rencontre. Donc on pensait notamment, par exemple, les faire s'écrire sous la forme d'un haïku. Donc c'est un poème japonais en 4 vers, donc ça serait un travail qu'ils feraient en français. Et on voulait aussi que les jeunes en art plastique, enfin mes élèves, construisent un logo qu'on puisse floquer sur une casquette et donner à tout le monde, pour un peu créer un sentiment d'appartenance. Mais effectivement, il y a des choses qu'on va adapter. Donc par exemple, on a choisi qu'ils campent, mais ils seront dans un camping avec des sanitaires en dur pour que voilà, l'adaptation soit pas trop rude. Et il y a aussi certaines activités qu'on va adapter, mais le but, c'est aussi qu'il y ait des temps d'échange, c'est-à-dire que ce qui va peut-être interroger mes élèves, ce soit l'occasion d'échanger, de discuter, pour ne pas arriver en fait avec des représentations ou des clichés qui entravent la rencontre.
Philippe Bancon, une réaction à ce projet, il est quand même très exceptionnel.
Ouais, c'est super, ouais. Non, ce qui est super, c'est que elle réussit à aller chercher l'adhésion et de l'ensemble de l'équipe, parce qu'aujourd'hui c'est la question du scoutisme, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est d'arriver à faire, Marion l'a dit, émerger un sentiment d'appartenance de la part des enfants, mais aussi de l'équipe des éducateurs, et donc qui est un vrai travail d'équipe, ce qui est pas toujours évident à un niveau comme celui-là. Donc de fait, oui, je trouve que c'est très inspirant, et qu'il y a vraiment l'opportunité là de faire vivre une expérience à ces jeunes, et ce qui manque souvent, une expérience relationnelle, une expérience de vie, une expérience de rencontre, voilà. Donc bravo.
Quelles leçons tirer de ces expériences qui ont déjà eu lieu, qui sont en cours? Je me tourne vers vous, Clément Taillé.
On peut s'enrichir à chaque fois qu'on décloisonne et qu'on donne la possibilité aux gens de travailler ensemble dans un objectif commun. Ça, c'est vraiment le point fort de cette méthode-là, c'est que quand on cloisonne, on perd un peu de sens. Quand on donne un sens commun et que tout le monde tire un peu dans la même direction, forcément, pour les élèves, ça, c'est éclairant. Et c'est ça qui motive, quoi. C'est ça qui fait avancer.
Marion Herra, un conseil à donner à d'autres profs qui auraient envie de se jeter à l'eau et de faire entrer un petit peu de scoutisme dans leur établissement?
Oui, bah alors déjà, on peut y aller progressivement. Hein. Là, moi, j'avoue que j'ai un peu mis le j'ai un peu mis le paquet. C'est vrai que, en fait, faut aussi savoir s'entourer. Hein. Faut savoir que, en fait, dans la plupart des territoires, il y a des personnes ressources sur cette question-là.
La plupart des territoires scouts, c'est ça. Hein.
Ouais, en fait, c'est en gros le département, les régions. C'est possible en fait de contacter par exemple les groupes environnants et d'essayer de rentrer en contact avec les personnes qui sont en charge du développement du scoutisme, qui peuvent vraiment être des personnes ressources, parce que c'est compliqué de le faire seul. Moi, j'ai la chance d'être équipière nationale, donc du coup j'ai cet entourage qui me soutient, mais voilà, ne pas hésiter à se lancer en étant accompagné.
Et pour conclure, Philippe Bancon, un mot très court.
Je pense que c'est on est devant un enjeu très fort dans nos sociétés pour faire que l'école puisse vraiment être au rendez-vous du XXIe siècle, puisqu'elle n'est pas encore complètement, loin de là. Les enjeux qui attendent les enfants qu'on a dans nos établissements sont immenses. Et je pense que le scouting peut vraiment apporter sa pierre à la rénovation, à l'enrichissement, à la transformation, j'irais même jusqu'à la métamorphose de notre système scolaire qui est nécessaire. Voilà, je pense qu'il y a un travail qui est amorcé par les Scouts et Guides de France et auquel je crois beaucoup, pour qu'on puisse de fait aller chercher toutes les compétences dans ce domaine-là.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission, de nous avoir partagé votre enthousiasme pour la méthode scout à mettre au service de l'école. Philippe Bancon, Clément Taillé et Marion Héral.
Merci Stéphanie Gallet. On va rester avec nos scouts jusqu'à 11h dans la seconde partie de Je pense donc que j'agis. On va parler d'une ancienne tradition, ça existe depuis plus de 30 ans, c'est cette fameuse lumière qui est allumée dans la grotte de Bethléem et qui est diffusée dans plusieurs pays. On va en parler dans un instant puisque c'est un symbole de paix important. A tout de suite sur RCF, toujours avec vos appels, je le rappelle, au 04 72 38 20 23, vos messages dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis et par mail à l'adresse direct@rcf.fr.